Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bonjour et bienvenue à la une de cette édition. L'ONG 7 Sauveurs va injecter plus de 200 millions de francs CFA dans l'éducation des personnes en situation de handicap. L'information a été donnée hier au cours du lancement de la phase 3 du projet Éducation pour tous. La FEMA faute sur soi à la tenue de son assemblée générale extraordinaire de ce vendredi. Elle n'a pas non plus annoncé de nouvelles dates pour la rencontre. Et dans ce journal, on va parler de la vente en ligne et ses stratégies pour attirer de la clientèle. Voilà pour les titres, les détails. Dans un instant avec Assetou Kanté, Gaye Kanté est à la technique. La phase 3 du projet Éducation pour tous a été lancée hier à Bamako. D'un montant supérieur à plus de 200 millions de francs CFA, ce programme a pour but de soutenir le gouvernement dans ses efforts visant à améliorer l'accès à l'éducation, notamment pour les personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires ont également lancé un appel aux autres organisations afin qu'elles rejoignent cette initiative et participent à la promotion d'une éducation inclusive. Le projet est de l'ONG 7 Sauveurs en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Les détails dans ce reportage de Aboubakri Ag Mohamedine Yattara.
Durant la rencontre, les responsables du projet ont mis en avant l'importance d'inclure les personnes vivant avec un handicap dans les systèmes éducatifs et de promouvoir leur autonomie à travers des initiatives spécifiques. Cette phase a pour objectif de renforcer les infrastructures scolaires accessibles et adaptées, nous dit Paul Syriac-Marico, responsable de l'éducation inclusive à CEIG Sauveur.
Cette éducation vise l'ensemble des enfants et particulièrement les enfants handicapés auprès de 10 écoles partenaires pendant 3 ans. Pour l'instant, pour raison de budget, on va seulement travailler dans la région de Dioïla. Une fois cette politique disponible, elle sera appliquée sur l'ensemble du territoire malien.
Les représentants des associations des personnes vivant avec handicap ont exprimé leur enthousiasme face à cette initiative. Pour Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles, cette initiative est un réel progrès pour l'égalité des chances.
Et l'éducation aussi fait partie de la vie, donc vraiment ça aide beaucoup les enfants vivant avec handicap. Par le passé, on a exécuté beaucoup de projets avec Saïd Sever qui rentrent dans le cadre de l'éducation, mais également dans d'autres domaines. Inciter les bénéficiaires que nous sommes à bien utiliser à bien profiter de ce projet pour que la scolarisation des enfants handicapés puisse être une réalité.
Rappelons qu'en plus des écoles fermées en raison de l'insécurité au nord et au centre du pays, plus de 70 établissements ont été inondés dans les régions de Tombouctou et Gao en janvier dernier.
Vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Fédération malienne de football renonce à la tenue ce vendredi de son Assemblée générale extraordinaire. Elle l'a fait savoir dans une lettre circulaire parue mercredi sur les réseaux sociaux. Ce report avait été demandé également par le ministre des Sports. Ce dernier réclamait une étude de performance avant toute modification de texte. Omar Ouigalo.
Dans sa lettre, la Fédération malienne de football justifie ce report par la mise en place d'une commission de relecture des textes qui doit proposer un document final. Cependant, elle n'a pas fixé une nouvelle date pour la rencontre, mais précise qu'une nouvelle convocation et les textes à réviser seront envoyés dans les prochains jours. Par ailleurs, elle rappelle dans sa lettre que cette Assemblée générale extraordinaire vise à adopter les budgets de la FEMA Foot de l'année 2025 et de réviser certains textes. Elle explique également que les propos des textes de révision ont été déjà envoyés à la FIFA, Fédération internationale de football association, qui à son tour a fait des observations. Rappelons que la Direction nationale des sports et de l'éducation physique avait demandé à la FEMA Foot de s'asseoir à toute modification des textes pour préserver un climat social apaisé dans les milieux footballistiques. Dans la foulée, l'inspection du secteur des sports et notre acteur du sport relevant du ministère des sports réclament la réalisation d'un audit de performance portant sur la gouvernance de la FEMA Foot.
Je vous l'annonçais dans les titres, la vente en ligne ou le e-commerce est fréquent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram et autres. Cependant, de nombreux promoteurs ou vendeurs d'articles dans ces boutiques en ligne n'affichent pas souvent les prix de leurs produits. Si certains disent le faire pour susciter de la curiosité et avoir des contacts, d'autres estiment que cela pourrait être nuisible à la vente. Plus de détails dans ce reportage signé Ali Cissé.
Madame Yaï Samake est une vendeuse d'encens traditionnels en ligne. Pour elle, afficher le prix de certains articles est un handicap pour celle qui achète, pour ensuite revendre.
Nos revendeuses utilisent les mêmes canaux de publication que nous. Donc si on mettait les prix en gros, ça peut être un handicap pour eux. Parce que s'ils vendent les mêmes produits que nous, plus cher, les gens ne pourraient pas aller directement acheter chez eux.
Ces explications sont plus ou moins corroborées par certains Maliens interrogés sur la question.
C'est juste pour réveiller la curiosité des gens et les pousser à demander le prix.
Afficher le prix peut faire fuir le client. Or, s'il vient en inbox, tu pourras le convaincre de la qualité du produit et du pourquoi le prix est comme ça.
Lorsque tu affiches le prix de ton produit, c'est un vendeur aussi qui en devant leur produit pour attirer plus de clients par rapport à la chaîne.
C'est pour avoir beaucoup de numéros.
Sans le prix, les gens ne peuvent pas faire d'analyse comparative efficace. Ne pas afficher le prix va également à l'encontre des besoins des clients et introduit ainsi de l'hostilité dans la recherche. Et l'expérience d'achat, souligne des spécialistes du digital.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
8 heures passées de 6 minutes, on avait un autre dossier de la semaine, la consommation des réseaux sociaux et leurs conséquences, un mal de notre siècle. Ces réseaux sociaux ont créé un nouvel espace, mais cette fois-ci virtuel. Cette virtualité donne la possibilité à des gens de dire des choses dont ils ne sont pas capables en présentiel. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Notre reporter Adama Amadou Aïdara s'est intéressé à la question.
Ce qui est écœurant, c'est de voir sur ce réseau des personnages plus âgés qui s'adonnent à des pratiques inconvenantes comme les injures graves, les propos ou pratiques qui font atteinte à la pudeur.
C'était là Balafané, traditionnaliste à Djouila. Et pour expliquer cette dérive dans les comportements, Fodié Tandigoura, sociologue, parle de la dématérialisation des rapports humains à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a la parole.
Les individus sont beaucoup plus capables de faire des actes dont ils ne seraient pas capables dans un contexte de présence physique. Finalement, c'est grâce ou à cause des réseaux sociaux que beaucoup de gens ont pu avoir accès à la parole. C'est ce qui favorise beaucoup de dérives dans nos comportements aujourd'hui.
Mais qu'en est-il de l'avis des internautes? Quelques-uns auxquels nous avons tendu notre micro ont des avis divers, même si la majorité trouve ces contenus déplacés.
En tant que femme, en tant que maman, venir sur les réseaux comme ça, dire des grossièretés, ça fait honte, c'est désolant quoi.
Nous allons un peu vers la perte.
Une personne qui a des valeurs et de bonne moralité ne va jamais aller s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter ou humilier une autre personne.
Bon, moi, personnellement, c'est des choses que j'adore écouter parce que dans la plupart, il y a des histoires vraiment drôles qui circulent.
C'est vraiment dommage. Ça ternit l'image même du pays, quoi.
Balafané, traditionaliste à Djouila, s'insurge contre ces faits qui, selon lui, vont à l'encontre de nos mœurs.
Ces pratiques sont contraires à nos coutumes et leurs pratiquants déshonorent notre identité culturelle, le Mogoya, le Mogosebeya, le Mogosebe Dinya, le Horonya, sanctionné par le Sinankunya.
Cette manière d'utiliser les réseaux sociaux peut impacter négativement les parents et les proches de ces personnes. Pour y remédier, le sociologue Fodié Tandigoura propose l'implication des internautes, sans qui la lutte ne peut aller à échéance.
D'abord, ces personnes compromettent leur avenir et puis celui de leurs enfants, parce que personne ne veut être le parent d'un individu qui insulte sur les réseaux sociaux. Et voir une personne âgée insulter grossièrement était extrêmement choquant pour les Maliens que nous sommes. Mais malheureusement, les réseaux sociaux ont libéralisé la parole. Nous ne savons plus qui nous sommes finalement. Pour y remédier, l'effort au niveau de chaque consommateur des réseaux sociaux de refuser de partager ces messages-là.
En attendant que les gens aient une bonne compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux, sa mauvaise utilisation continue de faire des dommages collatéraux.
Un dossier signé Adama Amadou Aïdara. Et en raison du mois de Ramadan, les horaires de diffusion des programmes de Studio Tamani connaîtront un réaménagement à partir de ce dimanche 2 mars 2025. Ainsi, toute la durée du Ramadan, les programmes du soir débuteront à 16h pour prendre fin à 18h. Quant aux heures de diffusion du matin, elles restent inchangées de 8h à 9h30. Studio Tamani vous souhaite un bon mois de Ramadan. Et sur ce, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafouni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Ne décrochez pas. Juste après le magazine, vous aurez la version Bambara de cette édition, une présentation de Juliette Koulibaly. Excellente journée à tous et à toutes. Les relations entre l'école et les parents d'élèves peuvent être parfois tendues. Le dernier incident entre le censeur du lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou et un parent d'élève en est le témoignage éloquent. Les faits remontent du 15 février dernier. Un parent d'élève en colère a agressé le censeur du dit établissement et confisqué la clé de son véhicule. Une réaction à la saisie des clés des motos de 3 élèves par le censeur pour raison d'indiscipline. L'affaire s'est retrouvés devant la justice. Alors, comment maintenir le lien entre l'école et les parents d'élèves pour préserver un environnement sain pour les enfants? La réponse dans ce magazine Enfants réalisé et présenté par Ousmane Alipouli.
Tout a commencé le vendredi 14 février quand 3 élèves s'étaient livrés à des acrobaties dangereuses dénommées Malvie avec leur moto dans l'enceinte de l'établissement. Pourtant, selon les responsables du lycée, il est bel et bien dit que dans les règlements intérieurs, nul n'a le droit de troubler la quiétude de l'école. Pour mettre un terme à ces agissements, le censeur Abdoulaye Guindo confisque les motos des fauteurs de troubles.
On a besoin de quiétude ici quand il y a des enfants qui s'amusent avec les mobilettes dans la cour de l'école. Et au moment où les classes se tiennent, ce n'est pas normal. L'école doit contribuer à travers tous les acteurs, personnel, enseignant, non enseignant, à parfaire l'éducation des enfants.
Le lendemain des faits, un parent d'élève demande à rencontrer les censeurs du lycée dans l'intention de récupérer la clé de moto de son fils. Au dire du censeur, la rencontre vire à des échanges violents qui finissent par une agression. En dépit de récupérer la clé de moto de son enfant, le parent d'élève parvient à retirer de force la clé de son véhicule, a avancé le censeur Abdoulaye Guindo.
J'étais dans le bureau, c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle pour me dire qu'il y a un parent d'élève assis à la porte qui insiste, qui voulait me voir. Quand je suis sorti, il l'a trouvé assis. On m'a dit, c'est vous le censeur? J'ai dit oui. Il dit, je suis venu pour la moto de mon enfant. Et lui, il est venu avec l'intention d'aller avec la mobilette, il fallait ça. Il s'est jeté sur moi, il a pris mon cou, il a tordu ma main gauche dans laquelle je tenais la clé de ma voiture et puis il a pris la clé et parti avec, voilà. Et c'est sur ces entrefaits-là que je suis allé porter plainte à la police.
Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, estime que cet acte n'honore pas les parents d'élèves. Ces membres aussi de la Commission nationale de lutte contre la violence et la sécurité dans l'espace scolaire et universitaire pensent que les enseignants doivent travailler en toute quiétude.
Condamnons cet acte avec la ténère rigueur. Il faut que nos espaces scolaires soient sécurisés, de respecter les textes qui régissent ces espaces scolaires. Donc aucun parent d'élève n'a le droit d'apporter la violence dans un espace scolaire universitaire.
De Kita à Koro, en passant par Yamfolila, dans la région de Bougouni, le constat est général. Les conflits relationnels entre parents d'élèves et enseignants se font sentir dans plusieurs endroits, témoignent ces parents rencontrés.
On constate que les enseignants sont devant un fait où ils sont vraiment faibles, où ils n'ont pas une force de pouvoir faire face à cette situation.
D'ailleurs, c'est ce qui se passe même ici à Koro. Chaque fois, nous entendons, nous voyons les parents d'élèves interpellés par rapport à la situation de leurs enfants à l'école. Sinon, du moment où le châtiment corporel est interdit, l'enseignant ne peut plus rien.
Ou bien le conduire à la direction ou d'éventuelles mesures disciplinaires.
Ces faits sont extrêmement graves et doivent attirer l'attention des autorités scolaire pour des dispositions idoines, estiment des pédagogues. Pour ces deux lois, parents et responsables scolaires doivent montrer l'exemple.
Les parents doivent accompagner les enseignants dans ces actions d'éducation et d'instruction. Si c'est le parent lui-même qui vient faire des actes de violence dans la cour de l'établissement, ce n'est pas du tout un bon exemple qu'on doit montrer aux enfants.
Il est à noter que l'affaire est pendante devant la justice et les élèves mis en cause écopent d'une peine de suspension de cours.